Parlons sport sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous, et bienvenue sur RTVFM, la radio qui parle de sport le lundi soir, la seule et unique, Valérie. Bonsoir Valérie, ma coéquipière favorite du lundi soir.
Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à tout le monde.
Ce soir, notre ami Théo à la technique.
Qui est toujours là, oui.
Oui, qui est toujours là pour le moment.
T'as intérêt d'être pendant passage. Une heure en tout cas, jusqu'à 19h.
Ouh, ça c'est pas sûr. Salut Théo, on a plein de nouveaux ce soir. On a un jeune stagiaire qui est à côté de Théo, qui va se faire martyriser par Théo, qui veut même pas dire bonsoir. Et puis on a Célia qui va intervenir avec nous dans l'émission. Bonsoir Célia.
Bonsoir.
Au programme ce soir du foot, Valérie, avec
l'USR qu'on attend.
L'USR qui devrait arriver.
David, si tu nous entends, on t'attend.
David, voilà. Merci. Du rugby à 13, du basket, du vélo. On aura Laurent Vanditelli, un des organisateurs de l'Avignon Vélo Passion du week-end prochain, qui viendra sûrement nous parler au téléphone de ce qui se passe le week-end prochain au Parc des Sports d'Avignon. Avignon Vélo Passion, c'est une énorme manifestation avec un BMX indoor, un truc de fou. J'y étais l'année dernière. C'était vraiment un très bon moment. Il va nous en parler, Laurent. Et puis, on aura sûrement, enfin, en tout cas, j'ai laissé un message à Flo Bernardi, s'il nous entend. Flo, s'il veut bien nous rappeler pour nous raconter son expérience en tant que couvreur au Rallye Monte Carlo. Là aussi, ça doit être un truc sympa à avoir. Et puis on aura aussi du hand, Valérie.
Du hand avec Mazan, entre autres.
Ben voilà, on va partir sur les résultats, ouais. En attendant que nos amis footballeurs arrivent.
Ben avant de commencer, je vais peut-être donner la parole à Célia, parce qu'elle veut parler basket.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait du basket pendant longtemps, donc du coup, je suis plus ou moins spécialisée là-dedans. Donc je vais donner les résultats d'abord. Basket de l'ABC Carpentras. Donc les U15 garçons de l'ABC ont joué contre l'USAP ce week-end et ils ont gagné avec un score de 84 à 53. La catégorie U18 féminine de l'ABC a perdu contre Orange 33 à 51 à domicile. Les U20 régions de Carpentras toujours ont perdu contre Rognac 58 à 64. Les seniors garçons ont joué quant à eux contre la Basse-Vallée de l'Arc et ont perdu à l'extérieur, 83 à 60. Et les pré-nationales donc de l'Union Carpentras-Sorgue ont joué à Marignane ce week-end et elles ont perdu 60 à 44.
C'est des résultats quand même, cette année, je trouve, un petit peu décevants.
C'est vrai, j'ai connu des années, moi, quand je jouais à la BC Carpentras, qui étaient quand même beaucoup plus glorieuses, on va dire.
Voilà.
Toutes les équipes avaient de très très bons résultats et on a même vu la montée des seniors garçons en région, les filles en pré-nationale.
Et à ton avis, c'est dû à quoi? Est-ce qu'il y a eu du renouveau au niveau des joueurs? Est-ce que les équipes sont plus fortes?
Je saurais pas dire sur ces deux dernières années parce que j'étais pas vraiment sur la région vu que je suis étudiante sur Lyon maintenant. Mais je pense que il y a eu des départs parce que bien évidemment les filles de mon âge arrivées à 18 ans ont fait les études donc on reste pas forcément sur la région donc on doit partir dans les grandes villes à l'extérieur, voire même à l'étranger pour certains et certaines. Donc c'est un peu compliqué de continuer le basket surtout dans le club où on était déjà pendant le lycée. Donc forcément s'il y avait des bons éléments dans ces personnes-là, elles sont parties, donc forcément ça a fait un creux dans les équipes et en même temps je pense que maintenant ils ont besoin de recruter dans les jeunes générations, donc ça va venir petit à petit, mais je pense que ça va prendre un peu de temps.
Voilà. On avait reçu les dirigeants de l'ABC qui nous avaient dit que c'était une saison un peu
chaotique cette année.
Pas chaotique, mais un peu de transition, un peu compliqué. Voilà, il y a des saisons avec, des saisons sans. Voilà. Il faut faire avec.
Et c'est toujours le même problème. On disait avec tous les clubs de notre département, hein, où
les bassins sont pas complètement inépuisables. À un moment, il y a des joueurs qui font le choix de partir. Juste pour rester sur le basket régional, une bonne nouvelle, Valérie, ce week-end, c'est que le Sorgue Basket Club n'a pas perdu. Parce qu'ils n'ont pas joué.
Bah oui. Je le regardais avec des gros yeux, je leur ai dit, mais il n'a pas joué.
Voilà, non, mais c'est pour ça que c'est à signaler. Je suis content pour eux, ils n'ont pas perdu. Bravo, bravo, messieurs, et bravo à l'encadrement du Sorgue Basket Club.
Il faut quand même préciser que ce week-end, beaucoup de matchs ont été annulés en raison du temps.
Des intempéries, ouais, bien sûr. Ils annonçaient un mètre de neige à la salle de la Plaine des Sports à Sorgue.
Oui, surtout à la Sorgue, oui.
Toujours dans le basket, Célia, un petit mot, le carnet noir du week-end.
Oui, on a une bien triste nouvelle de ce dimanche 26 janvier. L'icône de la NBA, la légende Kobe Bryant. Kobe Bryant, je parle même en anglais, c'est génial, est décédé lors d'un crash d'hélicoptère ce dimanche. Il était accompagné de sa fille Gianna, qui avait 13 ans, qui est également décédée lors de ce crash, ainsi que toute l'équipe qui était à l'intérieur de l'hélicoptère. Donc ils étaient au nombre de 9.
Avec le chauffeur, le pilote, 9.
C'est ça, oui, 9. Ouais. Donc c'est quand même une sacrée nouvelle, pour un gros tremblement au niveau de la NBA, parce que c'était quand même une légende. Il a pris sa retraite il y a seulement 5 ans. Aujourd'hui, il avait 41 ans. Donc, ça a vraiment secoué tous les membres et tous les joueurs professionnels de la NBA, voire même les joueurs internationaux, parce que c'est vrai que même Tony Parker, qui jouait chez les Spurs, qui a pris sa retraite cette année et qui jouait aussi en équipe de France, a été beaucoup secoué. Il a mis un mot sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook notamment.
On a vu des images aussi du match des Spurs, justement, où il y avait une minute de silence.
Oui, ils ont joué contre les Toronto Raptors. Ils ont fait une minute de silence et ils ont également laissé écouler les 24 premières secondes du match, donc la première action, pour faire référence au numéro 24 de Kobe Bryant chez les Lakers.
Célia, je te coupe. On a un invité un petit peu particulier qu'on va prendre immédiatement. On reviendra sur les résultats un petit peu plus tard. Laurent Vanditelli, probablement au téléphone. Laurent ?
Oui, allô.
Salut Laurent, comment tu vas ?
Oui, bonsoir Jean-Yves, ça va ?
Bien, toi ?
Très très bien.
Alors, raconte-nous un petit peu, Laurent, on a voulu t'avoir au téléphone. Je sais que ton emploi du temps est comment dire, surbooké en ce moment, entre les championnats de ce week-end, l'Avignon Vélo Passion du week-end prochain. Tu vas exploser, mon copain.
Oui, on est en direct, là ?
Eh oui, on est en direct, bien sûr qu'on est en direct.
Ah non, mais... Je voulais savoir si j'avais le droit de dire des bêtises ou pas.
Écoute, tu sais qu'avec moi, tu peux en dire autant que tu as envie, Laurent.
Bon, d'accord. Non, ben oui, explosé, j'en suis pas loin. Hein.
J'imagine.
Pas loin. Non, oui, c'est chargé, mais je suis pas tout seul. Il y a toute une équipe aussi qui s'est chargée. Et merci à Avignon Tourisme qui prend le risque aussi de nous aider après Cheval.
Ouais.
C'est un timing serré, mais c'est comme ça.
En tout cas, c'est raconte-nous un petit peu, parce que on connaît pour les initiés l'Avignon Vélo Passion. Ça devient, c'est la troisième édition, ça devient au fil des années une énorme manif là, et qui grandit de plus en plus et qui prend de l'ampleur.
Oui. Alors, Avignon Vélo Passion, c'est avant tout la promotion des pratiques cyclistes. Attention, je fais la différence entre les disciplines cycliste et les pratiques cyclistes. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que si vous nous entendez, que vous êtes adepte du vélo pour aller travailler, pour aller à l'école, pour vous déplacer en famille, que vous voulez devenir un sportif de haut niveau, ou alors vous êtes dans un club, eh ben tout le monde a sa place à Vélo Passion. Déjà ça, c'est important de considérer que c'est pas réservé aux sportifs et c'est pas réservé au public généraliste. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui aiment le vélo ou qui veulent découvrir le monde du vélo.
D'accord. Voilà. Le programme...
C'est la première étape, ça, déjà.
Ouais, vas-y. Après.
Le programme, il est simple. Vous allez avoir dans le hall B, pendant 3 jours, déjà le salon des exposants, composé de magasins, de spécialistes du vélo, de la nutrition... des conseils sur des camps de vacances, sur des lieux d'hébergement qui ont un rapport avec le vélo. Enfin bon, le stand de la municipalité d'Avignon, avec toutes les voies cyclistes qu'on a sur le département, autour d'Avignon, etc. Bon, vous êtes adepte du vélo, vous voulez tout savoir sur le vélo, vous venez voir le salon des exposants. Vous voulez tester le vélo, vous voulez essayer, vous initier, il y aura dans le hall C les ateliers pour les enfants avec la Drésienne, pour les adultes, les ados. Il y a des associations qui viennent parler de sécurité routière, de gravage de sécurité, de changement d'un pneu, de mécanique, une exposition sur les vieux vélos. Là aussi, du conseil, de la discussion, de la découverte, de la pratique des ateliers. Mmh. Et après, bah, tout le reste est basé sur les compétitions. Donc, vous avez deux compétitions majeures.
Ouais.
Évidemment, le BMX.
Ouais. C'est un peu le clou du spectacle.
Pardon ?
C'est un peu le clou de ces deux jours là de Avignon Vélo Passion. J'étais à l'Indoor l'an dernier, le samedi soir, c'est un truc de fou quand même.
Oui, parce que là la piste est en train de se terminer. Les bosses sont toutes formées, là, elles se terminent au moment même où je vous parle. Donc ça veut dire qu'il y a 4 jours pour que la piste puisse être fignolée, comme on dit, préparée aux petits soins. Mmh. On attend 1300 concurrents sur les deux jours.
D'accord.
En sachant que malheureusement cette année on n'aura pas les têtes de série que sont Sylvain André, Jérémy Rancurel, Romain Mailleux, l'équipe de France, parce qu'ils sont en Australie pour la Coupe du Monde.
Mince. Oui. Et ils n'ont pas fait le choix de venir avec toi, ils ont préféré aller en Australie.
Ah ben je sais qu'on joue les Jeux Olympiques à Tokyo cette année, alors sans vous dire. Que les professionnels du BMX, la plupart, sont en Australie. On a Tessa Martinez, Mathilde Doudou. Les Vauclusiens sont bien représentés en Australie, donc courage à eux. Mais alors, on a trouvé un menu de substitution.
Vas-y.
Parce que si on n'a pas. Alors, il va y avoir la course de race, on aura quand même beaucoup d'élites masculins et féminins. On aura les meilleurs Français en minime, en cadet, en senior, 30 ans et plus. On aura des légendes qui sont là. Mais on a autre chose, le clou du spectacle samedi soir. Bah, je ne sais pas si je vais le dire, parce qu'il faut que je vous donne envie de venir quand même.
Bah, écoute,
ça va se passer dans les spectacles et les shows.
Ouais.
Je vous dis quand même, on aura la présence d'Anthony Jean-Jean, qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo en BMX Freestyle.
Bien.
On va venir avec des membres de l'équipe de France féminine pour la première démo connue, parce que peut-être que ça s'est déjà fait, mais moi je suis pas au courant. La première démo au monde de BMX freestyle par deux féminines, la championne de France Magali Potier et sa partenaire de l'équipe de France Kenza Chal. Voilà. Autrement.
Ouais, c'est plutôt.
Évidemment, la cérémonie d'ouverture à 19h30. Et à côté de ça, le BMX aura son indoor comme dame. Et n'oublions pas l'indoor de cyclocross et de VTT organisé par. Frédéric Cloche et le WC de Torgadaille. C'est dans plein milieu du Parc Expo, dans le Hall L. Il y aura un contest de dirt BMX et des sauts et VTT, pardon. Des sauts sur des grosses bosses en terre avec des figures très spectaculaires, des enchaînements spectaculaires. Il y a un contest de flatland BMX et du freestyle au sol. On a déjà vu les années d'avant. Il y a la première épreuve du Pump Track Tour France, organisé par le champion du monde 2018, Shane Guenet. Et enfin, en épreuve, on a le Dual Trial. C'est la première fois que ça se fait. Une épreuve parallèle sur un circuit parallèle avec apparemment quelques noms importants du trial présents à Avignon Vélo Passion.
Donc, rappelle-nous rapidement les dates, Laurent, parce qu'on va être un petit peu pris par le temps. Rappelle-nous je t'en prie. Laurent, je sais que toi, quand on te pose une question, normalement, après, on peut aller boire un coup et revenir 5 minutes après. Normalement, on est.
Désolé.
Je te connais, Laurent, je te connais.
C'est court, hein. Boire un coup, tu peux manger aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai, pas faux. Donc, allez, les dates, les horaires, s'il te plaît, et éventuellement le tarif d'entrée.
Ouais, alors vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février, c'est ce week-end, 3 jours de 9h le matin jusqu'à 18h, 20h à peu près. C'est 6€ la journée, il y a un pass à 23€ et il faut réserver sur le site d'Avignon Tourisme rapidement parce que les places s'en vont. Et puis, quelques petites bricoles au passage, la présence d'Arnaud Geoffroy, triple champion du monde de cyclocross. Une grosse séance de dédicace samedi à 16h. Voilà, j'ai tout dit.
Parfait, Laurent, une idée de la météo, parce qu'on sait que les deux dernières années, tu as été un peu emmasqué avec la météo.
Oh là là, je te dis pas la déprime.
Le stress.
Alors apparemment, là, ils ont prévu à peu près 19 degrés.
Ouais, 20 degrés, 15 degrés, c'est le feu. Il y a 30 000 personnes qui vont venir, vous allez être heureux. On va se régaler, on va vous proposer du spectacle. Venez abandonner votre famille, venez nous voir.
Lâchez tout ce que vous avez à faire et allez voir Lolo à l'Avignon Vélo Passion. Et merci Laurent pour ta dispo. Merci. Écoute, peut-être à ce week-end en ce qui me concerne.
C'est sûr. Merci à tous les faits.
Salut Laurent, à bientôt. Merci. Ciao, ciao.
Au revoir.
Ciao, merci Laurent. C'est toujours un bon moment, Laurent, parce que il est à. Il vit le truc, il est à fond.
Il vit sa passion, et c'est vrai, hein, c'est vraiment quelqu'un de formidable, c'est vrai, ça il faut le reconnaître.
Ouais, et puis en plus il fait un boulot de fou, parce que moi je me rappelle la première fois qu'il m'a parlé de cette manif, c'était il y a 4 ou 5 ans. À l'époque on l'a beaucoup pris pour un fou, et maintenant il est à la tête de ce truc qui fonctionne. Valérie, je te laisse donner la suite des résultats.
Oui, voilà. Je vais continuer avec le tir à l'arc avec les archers de Saint-Siffrin. Donc, samedi matin se disputait la première manche du trophée des mixtes du département de Vaucluse, et les Carpentraciens qui ont aligné 3 binômes ont brillé. Claire Passe, Julien Sens remporte la manche, alors que les deux autres duos composés de Valérie Sardin-Boucher et Christophe Sub, d'Emma Berling et de Mathis Tenon se classent 3e ex aequo. Samedi après-midi, ce sont 6 jeunes archers qui ont participé au concours spécial jeunes. Tania O'Haro remporte la compétition au niveau 3 et passe au niveau 2. Marius Guinde lui termine 2e et Ethan Flamand 4e en débutant. Ils passent tous les deux au niveau 3. Enfin, dimanche, s'est déroulé le championnat départemental de tir à l'arc en salle et les archers de Saint-Siffrin ont décroché 4 titres de champion départemental, à savoir Julien Sens et Emma Berling en junior, Claire Passe en senior 1 et Mathieu Puig en cadet arc. Donc le prochain rendez-vous est le championnat régional les 8 et 9 février 2020 à Aix-en-Provence. En rugby à 13, il y avait les U15 et U17 du RCCC. Donc Carpentras donc qui jouait ce week-end, et les deux formations donc l'emportent sur le stade Georges Moreau à Entraigue face à l'entente Entraigue Avignon. Les U15 donc eux ont remporté le match 38-10 et les U17 66-14. Tous les deux sont à la 3e place au classement général. La différence c'est que les U17 ont 3 matchs de retard. Donc normalement, on va espérer qu'ils gagnent leurs 3 matchs de retard et qu'ils seront premiers, comme les U19. Donc voilà, il y avait aussi du rugby en élite 2. Ouais. Villefranche-Aveyron-Toulon 68-0 et Lyon-Villeurbanne-Salon 26-24. Les deux autres matchs ont été annulés en raison, donc on a dit, des intempéries. Au classement général, Carpentras est toujours 2e, donc avec un match de retard sur Villefranche, sur Aveyron, suivi de Isle-sur-Tête, de Pia, de Bao et d'Entraigue qui est toujours à 6e place. Voilà. Tu voulais parler de l'élite 1, je suppose.
Oui.
Avignon, les Inans.
Ouais, les Inans qui est venu s'imposer au parc. Avec un gros match de la part de nos amis avignonnais, et manque de peau, ça lâche à la fin. 28-22 de mémoire, il me semble.
C'est ça.
Première défaite de la saison pour le SOA. Le SOA qui était leader jusqu'à maintenant, qui est toujours. Mais un petit coup d'arrêt. Le prochain match du SOA, c'est ce week-end. C'est samedi après-midi contre Limoux, me semble-t-il. Non, oui, contre Limoux, me semble-t-il. Ça devrait le faire, en tout cas, on espère. Histoire de vite récupérer la place de leader de ce championnat. Toujours en rugby à 13, mais ce coup-ci en rugby à 13, Fauteuil. Nos amis des Bisons Fauteuil ont atomisé leurs adversaires. 122-12, je crois, ou un truc comme ça.
C'est quand même un score assez rare. Hein.
Ah oui.
Ouais, mais alors. C'est juste la meilleure équipe de France, en tout cas une des deux meilleures équipes de France, contre un promu. Ah. Forcément, on sait qu'au rugby à 13 au fauteuil, les premières saisons en élite, c'est toujours un peu compliqué. Là, en l'occurrence, voilà, ils ont fait le job, mais en même temps, je crois qu'ils avaient mis 100 points au match aller, ils en ont mis 122 ou un truc comme ça au match retour. Bon, voilà, les autres vont apprendre, ça va être. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Et puis la bande de Verdi et Motz et compagnie, c'est une véritable machine. Donc tant mieux pour nos, mes copains du SA Fauteuil.
Voilà. Il y avait aussi du rugby à 15 en Fédéral 3 Poule 6. Donc Avignon Le Pontet recevait Valréas 59 à 22, Monaco Cavaillon 25 à 10, Île-sur-la-Sorgue Sifour 32 à 7, Uzès les Angles 7 à 46. Au classement général, les Angles et tout. Donc toujours premier, suivi d'Avignon Le Pontet et de Draguignan. Donc voilà, il y a juste eu une inversion entre le deuxième et le troisième, donc Avignon est passé deuxième et Draguignan troisième.
Tu vois.
Voilà, et tous les autres matchs ont été annulés.
Oui.
Voilà, en Fédéral 1, Poule 2, 15e journée, Bédarid Châteauneuf recevait Nîmes et Bédarid a gagné 54 à 15. Bon
mais,
match.
Mais quel match. Quel match de fou. J'étais au stade forcément hein, puisque
forcément.
Puisque je suis l'heureux speaker du club de l'ASBC et ben voilà un match dingue avec des grands joueurs. On dit toujours que les grands joueurs ne vieillissent pas ou ne meurent pas. Timothy Matanavou qui 34 ans me semble-t-il, l'ancien joueur du Stade Toulousain qui avait été à l'époque meilleur marqueur du top 14 et meilleur marqueur de la Coupe d'Europe, il évolue depuis le début de saison à l'ASBC. Et ben même s'il était un peu vieillissant, le garçon, il a fait juste un festival. Il a été monstrueux dimanche, et il a donné envie à tous les Nîmois d'arrêter le rugby juste par son talent. Quoi, c'était un truc de fou. Mais vraiment, voilà, on a passé du bon temps. Cette équipe de l'ASBC qui évolue depuis maintenant deux matchs en ayant verrouillé la présence en Fédéral 1 pour la saison prochaine. Ils sont 7e. Il va pas se passer grand chose d'ici la fin de la saison. En tout cas, maintenant, c'est que du bonheur. Et du coup, eh ben, ils en profitent. Ils jouent complètement détendus. Et le public vraiment prend un pied extraordinaire à avoir joué cette équipe.
Et il y avait enfin Château Renard qui recevait Nice. Et Château Renard, s'est incliné. 14 à 28.
Ouais, ça pue un peu, là, pour nos amis Château Renardais. Ça fait,
ils sont 9e.
Ouais, ils sont 9e. Alors, heureusement pour Château Renard qu'il y a des équipes qui sont moins bonnes derrière.
Il y en a 3 derrière, hein.
Ouais, il y en a 3. Il y a, Serré, Mazamet et Castanet. C'est moins bon, beaucoup moins bon. Et du coup, Château Renard est pas très en difficulté. Même si, ça commence à puer un peu. En tout cas, dans le groupe, il y a quelques tensions, quelques tiraillements. Ils vont se sauver. Ils vont se sauver parce qu'il y a beaucoup plus faible derrière. Mais bon, voilà, c'est un moment un peu compliqué pour les joueurs de Château.
Voilà. Enfin, il y a du football. Beaucoup de matchs ont été annulés aussi. Donc en D2 poule A, Pernes recevait Visan, 5 à 0. Classement général, Pernes est 3e à 1 point de Sorgue et à 5 points d'Entraigues. En D4 poule B, Serres, nos amis serrois recevaient Altin. Altin, 2e. Et là, super perf, parce que bon, même si vous n'avez pas gagné le match, vous avez fait quand même un match nul.
Oui, tout à fait. On s'attendait à un gros match dimanche, ça a été le cas. Et oui, une grosse performance avec un très bon match de l'équipe. On aurait pu même l'emporter, je pense. Ça aurait été mérité. Bon, voilà, on a quelques lacunes devant. Mais on est quand même une belle équipe cette année.
Et vous êtes au 6e au classement général.
Ouais, ça a été le début de saison qui a été un petit peu mauvais. On a enchaîné les mauvaises performances. Et là, ça vient, le groupe commence à
être un peu plus homogène.
Ouais,
un peu,
tout à fait. On a eu beaucoup
plus compétitif.
Ouais, exactement. On a eu beaucoup de blessés en début d'année. Il y en a qui reviennent. On a eu beaucoup, beaucoup de blessures sur deux bras. On a eu des fractures tibia péronée, des nez cassés, tout ça.
Ah
donc,
oui, donc
ouais, ça a été vraiment.
Des belles, on va dire, fractures, enfin, de beaux blessés, quoi,
exactement.
Parce que c'est pas les blessés d'une semaine, on
ouais,
va dire.
On a eu deux mois difficiles, et là, on récupère même tout le monde, et ça va beaucoup mieux, ouais, effectivement.
On va en reparler dans quelques minutes.
Et allez, je finis avec le handball avec Mazan, donc en National 2, poule 8. Mazan l'a emporté, mais d'un tout petit point face à Ajaccio, 24 à 23. Elles sont 4e au classement général. Voilà.
Ouais, ça donne des regrets les quelques matchs qu'elles ont perdus, les filles, parce que ben voilà, elles font malgré tout un bon parcours, et si elles n'avaient pas perdu une paire de matchs en bois, là, elles seraient.
Elles seraient sûrement dans les. Voilà, en tête. Mais là, bon, elles sont quand même. Bon, elles sont pas loin, elles sont 4e. Mais bon, c'est. On va dire. Elles savent que la saison, entre guillemets, est terminée pour
c'est
elles.
C'est ça. Donc, pas de pression. Pas de pression, et du coup, elles vont s'éclater. Une petite page musicale, Valérie, le temps de respirer un petit peu. Et puis, on revient avec nos invités, notre invité de l'US Football, Serres. Et on aura aussi Flo Bernardi, qui nous appellera dans quelques minutes pour nous parler de son week-end extraordinaire du côté de Gap.
Sport sur RTV FM.
On est de retour ici au studio pour la deuxième partie de cette émission avec notre invité qui est arrivé. Alors, il y est pour rien, on allait taper sur lui et en fait c'est Valérie qui a envoyé le texto pourri. On est avec
Greg
Harbaud, un des présidents de l'USR Football. Et entraîneur aussi, co-entraîneur.
On est deux entraîneurs, entraîneur principal, on est deux.
Il y a un truc que tu fais pas dans le club, Greg?
Je joue plus. Pour le bien de l'équipe.
on va parler avec toi de ce club, oui, même si c'est un tout petit club, mais en tout cas c'est nos voisines, donc un peu
on
de solidarité, devine, voilà.
Mais on les reçoit régulièrement quand même.
Ouais,
on aime bien.
L'USR qui évolue en division 4. C'est-à-dire, ouais. Tu disais, c'est le plus petit niveau.
Ouais, aujourd'hui, c'est la plus basse division, puisqu'ils ont supprimé en deux ans les deux divisions qui étaient derrière. Il y a moins d'équipes.
Plus de poules.
Il y a plus de poules cette année, c'est un peu compliqué. Ouais. Ils ont fait des poules avec moins d'équipes dedans, c'est un peu bizarre, puisqu'on joue des fois trois semaines, on n'a pas joué pendant un mois et demi avec la pluie, donc c'est au niveau de la régularité, c'était très compliqué.
Le district de. Ouais. Et c'est les spécialistes de l'annulation du match à la première goutte. C'est encore pire que chez nous.
C'est exactement
encore pire
ça.
Au rugby.
Ils nous ont annulé des matchs. Des fois, il pleuvait même pas ici, mais sans voir les terrains, ils nous ont annulé les matchs. Et ça a été très compliqué. On n'a pas joué pendant un mois et demi, je crois. Donc, au niveau de l'enchaînement des matchs, c'est très dur, puisque pour prendre un rythme, tout ça. Donc, les terrains pas praticables aussi, parce qu'il a bien plu quand même. Et les entraînements annulés, c'est pour ça que ça a été compliqué. Je pense que.
Oui. Parle-nous un petit peu de ton club, Greg. Combien de licenciés aujourd'hui?
Alors, on a un senior, on doit avoir 25 licenciés à peu près. Et cette année, avec deux amis d'enfance, on a repris la présidence du club. Donc, de David Boyer et Yannick Lecoana, et Rachid aussi, Adjifi qui était avec nous l'année dernière. On a remonté le club, on a repris le club parce que l'ancien président avait arrêté ses fonctions. Et on a monté une équipe de jeunes cette année, puisque pour monter maintenant au niveau des seniors, il faut absolument une équipe de jeunes, sinon c'est plus possible. Voilà ce qui nous a coûté la montée l'année dernière. Et on a monté une équipe de U11, U12 cette année. C'est des jeunes c'est des anciens de Serres, et ils sont contents puisque c'est des enfants qu'on a eu plus petits et qui sont allés dans les clubs aux alentours et à qui ça n'a pas plu forcément, puisque bon, c'est vrai que c'est la mentalité de village, c'est particulier, mais souvent les parents aiment ça, donc voilà.
Oui, parce que justement j'allais te poser la question, puisque hors antenne j'en parlais à Jean-Yves tout à l'heure, pourquoi un club si près de Carpentras, en fait, parce que Serres, c'est Carpentras.
Tout à fait.
Voilà. Et mais est-ce que ça date de très longtemps, ou est-ce que c'est une volonté du hameau ?
Non, ça fait longtemps. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants de Serres dans ce club avant. J'étais entraîneur, j'étais joueur et entraîneur, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le club. Et à l'époque, on avait tellement d'équipes qu'on n'avait même plus de place les après-midi. Malheureusement, des circonstances ont fait que ben il y a eu moins de jeunes, et c'est vrai que on attire pas trop de monde de Carpentras, c'est ce qui est bizarre. Mais bon, c'est peut-être la difficulté de venir jusqu'à ce stade, c'est vrai que il y a beaucoup de stades à Carpentras, donc il y avait le Carpentras 83 qui n'existe plus, mais le FCC c'est à côté. Puis bon, vu qu'on reprend un club, de trouver des dirigeants maintenant, des bénévoles, c'est juste voilà, je pense que c'est pareil dans le rugby.
Ouais,
ça n'existe plus, hein, c'est
ben, voilà. ça existe si t'es ultra motivé, mais encore une fois, c'est des les mecs viennent pas naturellement dans les clubs, mais j'imagine qu'au foot c'est pareil.
Ah, c'est exactement ça.
Nous au rugby, on était soi-disant protégés avec la fameuse mentalité rugby, des valeurs et tout. C'est paumé complet. Maintenant, quand un mec arrive dans un club, le premier truc qu'il demande c'est combien et quand. Ben voilà, on perd aussi ses valeurs, et j'imagine que c'est encore pire au foot parce que
c'est exactement ça.
Voilà. Donc ben voilà.
Mais la chance que nous avons, c'est que nous sommes que des bénévoles. Mais nous sommes pas beaucoup de dirigeants. On est donc trois amis d'enfance. On a un quatrième qui est avec nous, joueur. J'ai fait venir un ami entraîneur, un très bon entraîneur. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver, parce que cinq personnes pour s'occuper d'un club, c'est en comptant une équipe de jeunes, c'est très compliqué.
Vous faites tout, en fait.
On fait tout, puisqu'en plus on s'occupe des lotos. Nous avons les lotos juste à côté, voilà, tous les 15 jours. Oui, ça fait beaucoup de travail, puisque la présidence, puisque faut savoir que le président est joueur. Voilà, on est multifonction. Il tient encore un peu. Il est pas loin de la quarantaine, mais il tient encore un peu. Donc oui, c'est compliqué, mais on y met du cœur et on espère vraiment le faire revivre, ce club. On fait tout pour.
Tout à l'heure, tu parlais de ton équipe, donc oui, de tes seniors, on va dire. Oui. Vous êtes plus d'une vingtaine, donc presque, donc une bonne équipe, on va dire, pour pouvoir faire des roulements.
Oui, sauf que sur les 25, j'en ai 8 qui sont complètement blessés. Voilà, donc on tourne à 17-18 en ce moment. Oui. En sachant que, ben, avec les cartons, bon, les contraintes familiales, tout ça, c'est compliqué.
Et sur une fiche, sur une 14. Feuille. 14
joueurs,
aligner,
oui.
14
aligner,
oui, c'est donc c'est pas.
Ça fait juste, hein, ouais, ça, oui. Nous, là ça va mieux, mais en plus quand il fait froid, maintenant les jeunes ils sortent moins.
Ils sortent un puits, voilà, normalement.
C'est exactement ça. Et ouais, voilà, bon, après, on essaye vraiment de faire quelque chose d'homogène, de correct. Après, bon, hein, tout dépend pas de nous. Hein. Maintenant, c'est les joueurs, mais il y a une très bonne mentalité. C'est vraiment des enfants du village pour la plupart. Et on espère.
Comment on retient des gamins, j'imagine, de 19, 20, 22, 23 ans? Comment on les retient à Serres, alors que ça serait tentant d'aller jouer dans des clubs un peu plus huppés? Tu disais, il y a Carpentras, mais il y a Berne, Berne, Monteux.
Exactement. Mais je pense que eux, c'est le cœur. C'est pour la plupart, leur père ont joué là. Il y a quelque chose d'affectif. Et puis c'est un groupe d'amis, en fait. Donc et je pense que c'est super important dans le sport en général, qu'il faut qu'il y ait une cohésion, et c'est ce que l'on a. Et c'est pour ça qu'ils sont là, je pense. Mais c'est pour l'amour du club, pour les collègues, et que peut-être que la mentalité dans certains clubs est différente. Sans critiquer, voilà, les grands clubs, mais c'est pas pareil. Je pense que voilà, on demande peut-être plus de rigueur dans les grands clubs, et pas qu'il y en a pas assez, loin de là, mais c'est pas pareil. C'est vraiment du familial, et je pense que c'est ce qu'ils cherchent, les jeunes que l'on a dans l'équipe.
Et l'apport des nouveaux lotissements qu'il y a à Serres, est-ce que ça va t'apporter de nouveaux joueurs ou est-ce que vous faites, une sorte de promotion
C'est ce qu'on a,
pour l'école de foot peut-être.
Ouais. En fait, c'est ça. C'est quand on a récupéré la présidence en juin puisque c'était pas sûr. Du coup, on a fait de la promo un peu parce que pour construire, pour trouver des jeunes, ça a été très très difficile. Il a fallu qu'on aille à la journée des associations, de récupérer des jeunes parce que pour les faire revenir, les enfants, c'est pas pareil. Et là, c'est vrai qu'on va reprendre encore pour essayer de monter encore plus d'équipes de jeunes. On va essayer de le reconstruire petit à petit. L'année prochaine, on aimerait avoir une deuxième équipe de jeunes, les baby-foot. C'est vraiment un projet que l'on a.
Oui, parce qu'il y a quand même le hameau de Serres, il y a quand même pas mal de monde.
Oui, c'est pour ça que il y a l'école juste à côté. Pour les seniors, il y a le lycée juste à côté. Donc oui, on essaie de faire de plus en plus de promotions. On fait beaucoup parler de nous maintenant grâce aux réseaux sociaux, internet, tout ce qui va bien, puisque avant ça n'existait pas. Donc c'est une chance pour nous.
Comment vous arrivez à vous organiser, parce que du coup là les mecs bossent, j'imagine. Oui. Et là, ça doit être des fois hyper galère le sort à l'entraînement. Ça vous arrive d'être 4 ou 5, non?
Non, ça nous est pas arrivé.
Non, pas encore.
Pas loin. Non, parce que les jeunes, ils bossent moins aujourd'hui.
Mais tu as plus de concurrence avec la PS et.
Ouais, c'est exactement ça. Non, ça nous arrive de pas être beaucoup, 8 ou 9. Des fois, sur 17, 18, oui, ça arrive. Et quand il fait un peu froid. Il n'y a pas le même enthousiasme, mais en général, je ne me plains pas trop parce qu'on arrive quand même à être un nombre correct, alors que dans des grands clubs, avec beaucoup plus de monde, ils n'arrivent pas à être autant. Donc en général, on est quand même 16 aux entraînements, je trouve ça assez correct pour une équipe.
Carrément.
Ouais.
Et puis c'est plutôt beau aussi, en général, quand les mecs viennent à l'entraînement et qu'ils sont là le dimanche, ça veut dire qu'ils y trouvent leur compte.
On le voit, il y a des joueurs vraiment motivés. Je pense que la motivation de certains amène les autres. Et voilà, après... Quand j'explique, c'est pour nous, c'est pour eux, c'est un plaisir. Le sport, ça doit être
un
plaisir avant tout, et voilà, on fait tout ça pour eux.
Et justement, ça doit motiver quand tu vois un match comme tu as fait ce week-end.
Ah oui.
Ça doit motiver aussi les autres de venir, de vouloir encore plus participer, parce que un match contre les deuxièmes, faire un match nul que tu as voulu
faire à INV. Surtout que c'était une très belle équipe et que ils sont venus, ils étaient. Comme on dit un peu dans le sport, ils étaient gonflés à bloc. Ils nous ont dit on a mis une grosse équipe, ça va être très dur pour vous. Mais voilà, on a su motiver nos gars. Et oui, ce match-là, j'ai envie de m'en servir de référence dimanche. J'ai vu un très bel état d'esprit de mes joueurs. 14 joueurs qui avaient envie et ça fait plaisir. Ce week-end, un très très beau match.
Ça prouve déjà un niveau, on peut dire, un niveau que ton équipe peut avoir.
Oui, oui, mais j'ai aucun doute sur ça. Après, comme je disais. Le match de hier ne sera peut-être pas le match de dimanche prochain. Et voilà, c'est eux qui ont les clés en main. Nous, on est là pour les aider, pour les faire avancer, mais c'est à eux de trouver les bonnes clés pour gagner ces matchs-là.
C'est toujours plaisant de gagner, quand même.
Ah oui, bien sûr, c'est un plaisir.
De faire un match nul contre un deuxième.
Ouais, exactement. On perd pas. Ça fait un petit moment qu'on ne perd pas, mais on gagne pas, donc on n'avance pas.
Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de matchs nuls.
Exactement. Ouais, c'est que des matchs nuls. Je crois qu'on reste sur 3 matchs. On a fait 2 nuls. Une victoire la fois d'avant et on avait fait un nul avant, donc c'est vrai que c'était compliqué. Mais bon, c'est bien de ne pas perdre aussi pour l'état d'esprit.
Mais complètement. Enfin, en tout cas, moi je suis assez fan de ces équipes-là qui jouent pour les couleurs, pour le machin. J'ai eu la chance, il y a très longtemps, de faire partie de l'aventure de Caron au rugby.
Ah oui.
Et on était dans le même. Type de fonctionnement. Moi, j'arrivais de Fédéral 2, il n'y avait pas un franc, on se retrouvait à jouer en 4e série, qui est le niveau le plus bas du rugby. Mais dans ce que tu me racontes là, j'ai l'impression de revivre ce genre de choses où tu te retrouves à l'entraînement avec des mecs avec qui t'es content de te retrouver, même si. Tu sais que cette année-là, tu verras pas un franc dans ton porte-monnaie. Ça va même te coûter de l'argent parce qu'à ce niveau-là, ça coûte des ronds quand tu vas boire une bière après le match. Mais c'est super important d'arriver à capitaliser là-dessus et à former un vrai groupe.
Exactement. C'est ce qu'on essaie de créer. Bon, ça fait plusieurs années puisque moi je suis entraîneur depuis 4 ans. Mais avant, moi, j'étais seul. Il y avait le président, mais le président, il était président, mais c'était pas trop son truc, le foot.
Dommage pour un club de foot si le président il n'est pas.
Ouais, ben. Bon, après, il avait repris la présidence parce que à l'époque, j'y étais pas. Mais
parce qu'il n'avait pas eu le choix, sûrement.
Je sais pas. Ouais. C'est parce que c'est peut-être une histoire de famille. Je sais pas. Il a son fils jouer au foot, mais voilà. Mais après, c'est vrai que. là vraiment on mise tout sur le foot. Vraiment pour nous c'est super important, même si nous avons des choses, on crée des choses à côté comme le loto, puisque c'est, voilà, j'en parle encore, mais puisque nous sommes obligés, mais on fait en sorte de valoriser le club et de montrer vraiment que c'est un esprit.
Combien ça coûte une saison en D4 à Serre
financièrement?
Ouais, c'est quoi ton budget?
Alors nous avons le budget de l'Amérique est de 4 000 euros. Il faut compter que rien que le district nous coûte minimum 4 000 euros, c'est le minimum, parce que c'est très très cher. Il faut savoir qu'on paye maintenant les arbitres, les arbitres, on paye les licences, on paye tout ça. Donc
c'était pas la Fédé qui payait avant?
Non,
les arbitres.
Non, ça a toujours été nous. Et puis maintenant, en plus, je pense qu'ils sont payés un peu plus, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est de plus en plus difficile de trouver des arbitres. Faut payer les cartons, faut. Après, bon, mais il y a tous les à côté, les équipements, tout ça. Donc, voilà pourquoi on a cherché des sponsors en début d'année. Je remercie mon président, s'il m'entend. Les sponsors, on a fait le tour, c'est les lotos, c'est ce qui nous permet de rester. De garder le club en vie, parce que oui, financièrement c'est très difficile quand vous êtes un petit club.
Et cette année tu disais que tu as une équipe de jeunes, donc combien tu as de jeunes?
Alors il y a, si je compte bien, il y a, j'espère que Rachid ne m'en voudra pas, mais je crois qu'il y a 10 jeunes, si je me semble, 10 ou 11 jeunes, des U11, U12, U10, et ouais, c'est des anciens aussi, avec des nouveaux. Ça a été très difficile de remonter cette équipe, on a eu peur, parce que c'est vrai qu'on s'y est pris un peu tard, dans le sens où la journée des associations, il me semble que c'était en septembre.
Ouais, voilà. Début septembre,
donc la saison commençait 2 semaines après, donc il nous a parce que l'été, d'aller trouver des jeunes, l'été, il n'y a personne, donc c'était, voilà. Et on a fait le travail qu'il fallait. Et puis même les joueurs de l'équipe, puisqu'on est, on a fait le tour, on a cherché. Et oui, on a une belle petite équipe. Bon, il y en a qui démarrent, mais voilà, c'est pareil, c'est des enfants du club et c'est génial. Ouais. Ça nous fait plaisir. Ça permet de faire revivre le stade le samedi. Et voilà, c'est des gentils enfants, ils sont géniaux.
Et les entraînements, il n'y a pas de difficulté pour, parce que je suppose que c'est le mercredi après-midi.
C'est le mercredi après-midi. Ah mais non, eux par contre ils sont assidus. Alors c'est la différence avec les adultes. Eux ils viennent vraiment pour le plaisir. Il n'y a pas de contrainte pour eux. Au contraire, ils seraient plus là s'ils pouvaient jouer 5 heures, ils joueraient 5 heures. Que les seniors, ils savent que quand il faut courir, c'est différent.
Comment alors, pour la petite histoire, mon gamin m'a fait faux bond pendant 2 ans. Il est allé au foot. J'ai assisté à des. Ouais. Horrible. Non, connerie mise à part. J'ai assisté à des trucs qui m'ont scandalisé, qui m'ont même par moments choqué. Comment tu arrives à gérer ça, l'amoureux du foot que tu es? Comment, alors, peut-être à Serre, t'es moins concerné par ce genre de choses, mais j'imagine que lorsque tu vas, tes gamins vont jouer à Avignon, à Monteux, à Sorgue, ou que je sais encore, t'es confronté à ce genre de cagolerie là, ou je sais même pas comment. C'est pas un peu démoralisant, parce que le papa que j'étais venant du rugby, enfin, étant même toujours dans le rugby, enfin, bon, ça m'a rendu fou, quoi. Alors j'imagine toi.
Ouais, ben après c'est vrai que souvent on essaie de comparer un petit peu le foot et le rugby, enfin, au niveau de la mentalité, et c'est vrai que la mentalité du rugby est.
Rassure-toi.
Oui, on sait, d'après certains collègues, c'est vrai qu'elle descend aussi, mais elle est encore bien au-dessus du foot quand même, puisque bon, le foot, on voit des choses. Je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins de joueurs.
C'est là où je voulais en venir. Ouais. C'est est-ce que à un moment, c'est pas pénalisant pour les clubs comme toi qui essaient de remonter. Ce truc-là, qui est, toi, au quotidien, tu te lèves l'âme pour arriver à trouver 15 gamins et les faire rester, les faire prendre du plaisir. Et quand tes gamins vont jouer, j'ai en tête un tournoi, enfin, ils appellent ça un plateau, à Courthézon, où enfin, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Alors, il y a des clubs où on est épargné par ce genre de conneries, à Bédaride par exemple, où les éducs font un boulot monstrueux, où les mecs ont les pieds sur terre, ça se passe correctement, mais y a d'autres clubs où c'est juste un carnage. Comment toi t'arrives à aller séduire les parents, à leur dire filez-moi vos gamins? Bon, il n'y a pas que des Mbappé dans le truc. J'imagine que c'est une véritable galère.
Ouais, c'est très difficile, puisque c'est le discours de certains parents qui nous ont dit la mentalité ne me plaît plus, d'entendre des insultes, puisque malheureusement c'est malheureux d'entendre des parents venir m'attraper à la fin du match, alors que eux ils viennent juste pour s'amuser. C'est des enfants qui, à cet âge-là, même s'ils ont la culture gagne, mais je veux dire, eux ils viennent vraiment, c'est vraiment l'amusement. Après le match, ils ont oublié, rentrent chez eux. C'est pas comme nous, un senior, où c'est vrai que ça nous travaille. Eux, voilà, c'est un plaisir vraiment avant tout. Et ça devrait être pour tout le monde pareil. Mais le discours est difficile, mais on essaie de les motiver en leur disant qu'ils sont bien encadrés, qu'on fait tout pour que, qu'il n'y ait pas de soucis. Après, bien sûr, on n'est pas maître de tout ce qui peut se passer. Hein. Malheureusement, comme tu dis, dans certains clubs, c'est vrai que l'accueil est très difficile. Jusqu'à présent, avec nos jeunes, nous n'avons pas eu de soucis. Nous avons fait un plateau à Serres, on a fait plusieurs plateaux. Et on n'a pas eu de soucis, j'en suis vraiment fier. Après, on essaye d'être le plus possible auprès des jeunes, puisque le président, le trésorier, l'entraîneur et moi-même, nous sommes souvent là pour les jeunes et nous prenons les seniors avec nous aussi.
Greg, je vais te couper 3 oui, minutes, même 5 minutes. On a Flo Bernardi, je ne sais pas si tu connais Flo, pilote de rallye des Environs, qui a participé ce week-end au rallye Monte Carlo, qui était ouvreur. Flo.
Allô?
Flo?
Vous m'entendez?
Oui, on t'entend, Flo. Salut.
Salut, Flo, content de t'avoir et merci de nous faire l'amitié de nous parler 2 minutes. Flo, je voulais t'avoir au téléphone pour que tu nous racontes un peu ton week-end de folie. T'étais un peu au paradis. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu as fait, tu as ouvert au rallye Monte Carlo en passant devant les caïds et tu as eu surtout la chance de tester ta nouvelle auto, c'est ça?
C'est ça, donc je vais pas dire ma nouvelle voiture, mais la nouvelle voiture de Renault Sport Racing.
Ouais.
En fait, c'est voilà le rôle d'ouvreur au rallye Monte Carlo, c'est clairement la sécurité. Je faisais partie de l'équipe de sécurité de l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, qui organise la première manche championnat du monde, le rallye Monte Carlo. Et en fait, mon rôle, c'est de vérifier. Donc moi, je passais en condition course. 10 minutes avant le premier, donc le champion du monde actuel, Otana, enfin le champion du monde 2019, Otana, qui partait en tête, et vérifier que toutes les consignes de sécurité étaient bien respectées et que tous les spectateurs qui avaient été déplacés par les autres voitures avant moi, n'avaient été bien restés aux endroits qu'on leur avait indiqué. Donc voilà c'est mon rôle. Et voilà, c'était la première fois que la nouvelle Clio 5 Rallye, le petit dernier de la famille Renault, c'est la première fois qu'elle roulait. Donc j'ai eu l'honneur de faire le lancement, on peut dire dynamique, de la voiture. Donc c'est le rôle pour moi, c'est vrai, comme tu dis, un petit peu le paradis, une concrétisation de pas mal de travail. Et voilà,
maintenant, une belle reconnaissance en plus
une belle reconnaissance de la part de Renault et une belle confiance de la part de toute l'équipe de l'ACM, l'équipe sécurité de l'ACM, qui ça reste un poste important et donc ils m'ont fait confiance et ça s'est très bien passé, je suis très heureux.
J'ai vu tes stats là du week-end, 16 spéciales, 300 km en tout, 14 signalements, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es passé dans un endroit qui n'avait pas été identifié, tu l'as signalé, c'est ça?
C'est ça, en fait nous on avait un rôle, c'est-à-dire on devait rouler vite, parce que c'est aussi le rôle de la voiture 0, donc c'est triple 0, double 0, 0.
0.
Le rôle de la 0, c'est de passer en vitesse course à notre niveau avec la voiture, mais montrer à peu près le rythme que ça va avoir derrière. Et donc il faut quand même rouler vite, mais il faut vérifier. Donc mon copilote avait une radio aussi, on avait la radio, ce qu'on appelle l'intercom, pour communiquer ensemble, et lui il avait une radio où il discutait avec l'organisateur, où il pouvait parler à l'organisateur pour leur dire à tel kilomètre il y a encore 2 personnes sur la droite, donc là les commissaires sur le terrain allaient faire déplacer les personnes. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les interventions de sécurité.
192 passages au frein à main, Flo, tu es fier de toi?
Oui, on va dire qu'on a essayé de faire plaisir au public quand on avait la possibilité, la visibilité de vérifier pour voir que tout était en sécurité, que tout était bien. On essayait de faire un maximum de plaisir, de spectacle pour les spectateurs qui sont encore venus nombreux. Tu sais ce que c'est l'impact que peut avoir Monte Carlo, c'est monstrueux. Moi j'ai vu,
on a vu des images de fous. Il y a une période spéciale où même on se demande comment vous allez arriver à vous faufiler au milieu. J'ai vu aussi l'entrée de l'UB au parc fermé à Gap le premier soir. Enfin, t'as l'impression qu'il va jamais arriver jusqu'au motorhome.
Ouais,
tellement il y a du monde.
On va dire que j'ai été tout. En fait, la responsable sécurité à la FIA, c'est Michel Mouton, l'ancienne championne du monde.
Les années 80. Monde, ouais.
Voilà.
Audi Quattro.
Qui m'a dit le vendredi matin, qui m'a dit alors qu'est-ce que t'en pensais de la spéciale de lui? La fameuse spéciale de Bannon Brézier,
ouais.
Où toutes les images ont fait le tour, on va dire, du monde du rallye, mais aussi c'est passé sur TF1, un bon reportage sur TF1, mm-hmm. avec un enchaînement d'épingles. Elle m'a dit, voilà, moi, ça m'a rappelé la nuit du Turing.
C'est ça, c'est l'impression que j'ai eue moi aussi. Ouais.
Exactement ça, voilà. Et c'est vrai que là, il y avait un regroupement, les gens étaient là pour fêter leur passion, pour passer un bon moment, dans la convivialité et dans une très bonne ambiance. Et quand on arrive là, qu'on est pilote et qu'on arrive là-dedans, parce que moi, ils m'ont fait la fête comme si
c'est le pied, ouais.
J'étais en WRC et c'était juste incroyable. Donc c'est vrai que vivre des moments comme ça dans notre sport, c'est super.
Flo, avant de te laisser, je voulais juste savoir si tu avais des nouvelles de ton programme, mais tu m'as rappelé si tu avais eu des nouvelles.
Ouais, là pour le moment on est en discussion, j'ai eu une discussion ce week-end.
Ouais, ben mais, forcément.
Rien n'est validé, je sais ça avant, ça va dans le bon sens, mais pour le moment je peux rien annoncer parce que il n'y a rien de signé, donc j'espère d'ici une semaine ou 15 jours pouvoir t'annoncer une très bonne nouvelle.
Eh ben écoute, on t'appellera, tu viendras nous reparler de ton programme. Merci, okay. Merci Flo. Dis-moi.
Bocusien qui a gagné la catégorie RC3,
ouais.
Et Jérémy Karadec de Veden,
ouais.
Il a gagné c'était pour son deuxième Monte Carlo et il a remporté sa catégorie au rallye Monte Carlo, donc félicitations à lui. Et voilà, c'est un amateur, il travaille sur ce projet depuis plus de 6 mois, et pour sa deuxième participation, il avait fini l'année dernière, cette année il arrive à l'emporter dans sa catégorie, donc voilà, je pense que c'était bien d'en parler.
Des nouvelles de Tanak vite fait là?
Apparemment, voilà, ouais, il y a physiquement, eux vont bien.
Ouais.
Bon, la voiture. Ça nous rappelle aussi à l'ordre que, ben voilà, la situation.
C'est un sport dangereux, bien sûr.
Ouais, un sport dangereux, et si ça montre pourquoi il faut pas rester en contrebas de la route.
Complètement.
Là, quand on voit les images,
il s'envole. Ouais.
C'est clair. Et voilà, quand il s'envole. Ça vole clairement, ils sortent à plus de 180 km/h. Donc, moi, j'en ai passé à cet endroit-là. Le deuxième tour, le premier tour, on ne s'attend pas à se dire il y a quelqu'un qui va sortir là. Et le deuxième tour, quand on sait où ils sont sortis.
Tu fais gaffe.
Et qu'on peut imaginer à l'allure où ils sont, à la vitesse que ça fait. Je pense que ça a dû faire une drôle d'impression dans la voiture. Donc, heureusement qu'ils s'en sortent bien. Ils ont eu la chance, on va dire, de pas avoir de choc d'arrêt net.
Ouais.
Ils sont partis en tonneau, ils ont volé, mais on va dire que le corps supporte mieux ça que les RNS. Ils ont quand même pris plus de 40G dans l'habitacle. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés en observation toute la nuit. Mais apparemment, ça va bien. Ça reste des pilotes, ça reste des sportifs qui sont entraînés. Et bon.
Flo, merci, voilà. Merci pour ta dispo. Je te laisse, merci. Je retourne au football encore pour 5 petites minutes. À très bientôt, Flo.
À très bientôt. Merci à toute l'équipe.
À bientôt. Désolé, Célia, je crois que tu avais une question à poser à Flo.
Non, pas forcément une question, mais je voulais rebondir sur deux petits trucs que vous aviez dit, Jean-Yves et Greg. En fait, par rapport à l'esprit du sport, c'est vrai que moi, maintenant j'ai 19 ans, donc j'ai connu que certains clubs de sport, j'ai fait testé un petit peu tout. J'ai fait du judo, de la gym, du basket, du foot. J'ai touché à tout, clairement.
T'as quand même fait plus de basket que le reste.
Oui, j'ai quand même fait près de 8 ans de basket, donc ouais, c'est.
Ton
c'est
sport, on va dire, de prédilection.
C'est ça, c'est un peu ça, et je cherche même à le recommencer sur Lyon, donc j'aimerais bien. Bref.
Il n'y a pas de club à serre de basket.
Ah, ça, non, j'allais à Carpentras. Donc. Non, mais pour rebondir sur ça, c'est vrai qu'avec des échos de mon entourage, des amis, des proches, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans le rugby, on m'a souvent rapporté que l'esprit du sport avait changé, que c'était très compliqué. Certaines personnes qui me disaient qu'elles ne voulaient pas forcément aller voir certains matchs parce que contre certaines équipes, justement, ça se passait très mal et qu'ils ne voulaient pas du tout entendre certaines choses vis-à-vis de leur enfant, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du club, etc. Donc c'était quand même compliqué. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est vrai que l'esprit du sport, je pense que il change un petit peu dans toutes les disciplines différentes, que ce soit au basket,
ouais,
au foot, sauf même
que,
au rugby. Donc,
sauf qu'on a de la chance dans le sport d'avoir quand même des mecs comme Greg qui font du boulot,
qui s'investissent
et qui s'investissent et qui essaient de garder le truc à peu près propre.
Ouais, heureusement.
Nous, au rugby, je suis encore éducateur, moi, et j'ai les moins de 12. Mmh. On essaie aussi de transmettre. Moi, je me fous royalement de que mes petits soient champions du monde.
Oui,
ils ont gagné ce week-end, je suis super content. Mmh. Mais je suis surtout là pour leur apprendre le sport, et j'imagine, Greg, que c'est la même pour toi.
C'est exactement ça.
C'est le respect aussi de l'autre joueur, du joueur
d'en
face. Oui,
non, bien sûr.
Après, moi, je préfère me priver, et j'imagine que toi aussi, d'un gamin qui se comporte mal, quitte à finir le match en infériorité numérique, et ça m'arrive, mais au moins, enfin, on garde les valeurs, et enfin, je
enseigner les bonnes valeurs.
J'ai pas de mal à imaginer à t'écouter que tu réagis comme ça.
J'imagine que quand tu as dit ça, il y a certains de mes joueurs qui ont rigolé.
T'as la virée.
Oui, de temps en temps, je me permets je me fais le plaisir de pas prendre par rapport à l'état d'esprit, puisque c'est vrai que c'est la semaine qui vient de passer, qui découle un peu de mon équipe le dimanche.
Forcément. Puisque,
quelqu'un qui est pas correct à l'entraînement la semaine, qui est pas à l'écoute, je me dis que ben dimanche ça sera sûrement pareil. Donc oui, j'arrive à me priver en étant diplomate, bien sûr.
Ah ouais, moi je n'ai pas cette option.
Ben j'essaye. des fois, faut reconnaître que c'est difficile, hein, parce que bon, tu es avec des enfants, mais quand tu es avec des adultes, c'est ça qui est difficile, parce qu'on se dit que justement cet âge-là, ils devraient avoir assimilé, mais bon, c'est des garçons, ils ont 20-22 ans, ils sont en train de grandir encore pour certains, même si je les aime très fort. Mais ouais, comme tu disais aussi, la mentalité, je sais pas pourquoi elle change tant.
Mais bon.
Bon, je pense que après c'est ouais. C'est,
est-ce que c'est pas dû un peu aux éducateurs aussi des fois?
Alors, faut savoir
la mentalité elle-même de l'éducateur. Ouais. Hein. Parce que moi, je l'ai vécu ça. Hein. Et alors, c'est vrai que
souvent. Il y a quelques blaireaux au milieu des terrains, autour des terrains.
Parce que si l'éducateur n'a pas justement cette mentalité, bon, déjà comme tu disais, gérer son club aussi déjà ou son équipe en bon père de famille, qu'il accepte certaines dérives, à partir de ce moment-là, ça va plus du tout dans l'équipe. Hein.
C'est un peu ça. C'est ce que je dis toujours au senior, je dis pour nous c'est un plaisir, il faut que ça soit un plaisir pour vous, mais c'est vrai que sur certains matchs, que ça soit en senior ou chez les enfants, hein, puisque c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai vu des comportements d'éducateurs où justement on a fait un plateau,
c'est limite, ouais.
C'est limite.
Ouais, moi personnellement, je suis pourtant dans le foot depuis toujours, j'ai vu des éducateurs parler à leurs joueurs qui ont 10, 11, 12 ans, mais si moi il y en a un qui parle comme ça à mon fils, je l'enlève du sport. Et c'est ce que je regrette un peu, parce que on dirait que c'est un devoir de gagner, que c'est, alors bien sûr tout le monde aime gagner, mais après
c'est d'abord le plaisir de
moi
jouer.
Je dis aux parents et à mes gamins qu'on joue au foot, on joue au rugby, on ne travaille pas.
Exactement ça.
Greg, jouer. Merci, ça a été un peu court. Désolé,
c'est ma faute. C'est
bah,
ma
tu
faute,
reviendras, mais... tu reviendras avec tes joueurs.
On te fera revenir.
Je prendrai celui qui vient le plus souvent la semaine, parce qu'ils m'entendent là, ils écoutent.
Eh ben alors, donne-nous son petit nom.
Hola.
Non.
Je vais pas donner leur nom.
Pas de nom, il va mettre le bordel dans la
équipe. Ils sont un paquet, mais vous connaîtront. Et je fais, voilà, félicitations à mes joueurs encore pour le match. Merci à vous.
Très beau match.
Merci Greg, à très bientôt. On te réinvitera.
Sans problème, je prendrai.
Envie de venir, tu n'hésites pas.
Je prendrai le joueur qui est au plus âgé la semaine.
ben. Merci Théo, merci le stagiaire qui s'est caché pendant toute la soirée. Merci Célia, c'était un plaisir.
Merci, ça fait plaisir de revenir.
Et ben merci Valérie. Rendez-vous lundi prochain avec de l'haltérophilie, monsieur Brunet du club de Monteux.
Il a plein
de choses à nous raconter.
Avec des champions.
Avec des champions de France.
Et je ne sais pas s'il n'y a pas un champion du monde.
En tout cas, un mec qui est très près de faire les Jeux. Il nous en parlera absolument.
Ouais.
Rendez-vous lundi prochain, 18h, pour du sport.